French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode de French Expat vous est présenté par PetitPoussinNY.com. Crèche et maternelle bilingue français-anglais, elles accueillent vos enfants de 0 à 5 ans, entre 8h et 18h, dans leurs établissements de West Harlem, Brooklyn et du Lower Upper East Side. Appelez dès aujourd'hui le 212-663-7777 et dites French Expat afin d'obtenir une réduction de $500, valable sur toute inscription de 6 mois ou plus, avant le 31 mai 2024. Une belle manière de commencer l'année. Merci à Petit Poussin pour son soutien. Maintenant, place à l'épisode.
La charcuterie française n'est pas du tout connue aux États-Unis. Donc, la merguez, ils pensaient que c'était un hot dog et donc il fallait la bouillir. Non, tu bouges pas.
Ouais.
Tu bouges pas une merguez.
Ah oui.
Donc c'est vrai qu'ils ont plus l'habitude des saucisses qui sont pré-cuites comme la, comme des hot dogs ou déjà des bratwurst aussi qui sont déjà pré-cuites. Donc en fait, la charcuterie française, comme ils connaissent pas, il faut les éduquer là-dessus. Mmh. Et donc ça, c'est vachement intéressant aussi. Bon, nous on essaye toujours d'aller sur les farmers market parce que
on
aime
c'est
bien,
là que
on aime
contact.
Bien expliquer, voilà,
ouais, on explique
contact
à plein
de
gens.
La clientèle et t'explique tes produits. Et ben, tu vois un peu la réception que tu as derrière.
D'accord.
Mais en revenant sur l'histoire de la merguez, c'est une histoire vraie.
Non, mais je vous crois.
Céline a eu un appel téléphonique d'une cliente qui dit « Écoutez, j'ai mis la saucisse dans l'eau, là, c'est vraiment pas bon. »
Ouais.
Mais on n'y avait pas pensé.
Ouais.
Tu vois, c'est pas un réflexe.
Bah oui, bien sûr.
Donc l'aventure aussi est dans le humaine. Et tous les réflexes qu'on avait, en fin de compte, quand tu étais en Europe, tu les oublies.
Trouver son associé pour se lancer dans une aventure entrepreneuriale, c'est un vrai défi. Et cette association est souvent comparée à un mariage. Si tant est que des émissions de télévision se sont même consacrées à cette recherche. Certains se mettent en quête de trouver leur double, tandis que d'autres misent sur la complémentarité à tout prix. Et la complémentarité, c'est le pari que Christophe et Céline Goudy ont réalisé. Je suis en route pour Aurora, une petite ville à l'est dans la banlieue de Denver, au cœur du Colorado. Il est 19h, il fait nuit noire, et ce soir je pars à la rencontre de ces amoureux avant tout, mais aussi bons vivants et surtout travailleurs, qui il y a un peu plus de 10 ans ont tenté, accompagnés de leurs deux jeunes filles, de venir vivre aux États-Unis en s'installant dans la baie de San Francisco. À l'époque, Céline travaille dans les finances de marché, tandis que la spécialité de son mari Christophe, c'est le marketing. Avance rapide, aujourd'hui ils vivent dans le Colorado et sont à la tête d'une entreprise florissante, Goudy's French Cuisine. Et ensemble, je vous invite à découvrir leur reconversion et l'histoire de ce couple hors du commun. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Si vous souhaitez soutenir notre travail et notre indépendance, n'hésitez pas à vous abonner sur notre site frenchmorning.com. Allez, je suis juste devant chez eux, c'est parti. Eh oui, j'ai toujours peur des chiens. Et autant vous dire que dans le Colorado, eh ben c'est pas évident parce qu'il y en a beaucoup des chiens.
Enfin bref. Alors, on va faire un petit test de micro.
Moi je m'entends, c'est fantastique. Christophe.
Un deux.
Ah ben j'entends rien, donc c'est bien qu'on vérifie.
Un deux.
Ah ouais, c'est mieux. Vas-y encore.
3, 4 et
ouais,
5.
C'est bon, c'est cool. Jeté, ça y est. Et toi, Céline, tu dois être le 3.
1, 2, 3.
Ouais, c'est parfait. Alors moi, la première question que je pose généralement aux gens, et peut-être qu'on peut le faire de manière croisée, c'est si on se retrouvait, vous êtes des pros du networking, si on se retrouvait, je sais pas, dans un bar rempli de Français vivant à l'étranger et qu'on faisait un tour de table, tour de bar, ou je sais pas comment on dit. Comment est-ce que vous vous présenteriez? Qu'est-ce que vous voudriez en fait que les gens ils sachent de vous? Et peut-être que Céline, tu veux présenter Christophe et inversement? C'est pas facile hein, comme exercice.
Non, c'est pas facile. Donc, Christophe, 50 ans. maintenant, ça fait un peu plus de 10 ans que tu es aux États-Unis. Tu es venu pour ton premier métier, qui était le marketing et la communication.
Ouais.
C'est ce qui a fait venir toute la famille en fait, aux États-Unis. Et tout d'abord en Californie, dans la baie de San Francisco. Et puis, depuis quelques années, tu m'as rejoint sur la charcuterie, Goodies French Cuisine. Tu es là à mes côtés tous les jours. Et c'est aussi le papa de nos deux filles, Mathilde et Emeline, qui ont 18 ans et 16 ans.
Il y en a une qui vit en France, du coup, c'est ça?
Alors, il y en a une qui est repartie l'année dernière à Paris,
ouais,
pour étudier au collège, enfin, ouais, au collège qui est l'université, en fait. Elle est partie, elle étudie à l'Université américaine de Paris.
Mm-hmm.
Donc, rester dans le système d'éducation américain, ouais, pardon, mais en profitant de la vie parisienne.
Sympa.
Voilà. Ouais.
Pas que parisienne.
De la vie tout court, quoi.
Bon, parisienne, c'est agréable quand même.
Tout la vie, étudiante, tout court.
Eh ben, écoute, on l'embrasse. Et alors, Christophe, est-ce que tu veux nous présenter Céline?
Oh, Céline. Je dirais pas ton âge. Parce que je veux pas dormir sur le canapé. Je veux pas dormir sur le canapé pour les 20 prochaines années.
On m'en dit toujours que je suis plus jeune que toi. Donc ça va.
Oui, quoi qu'il arrive. On me dit parfois que j'étais son père. Les cheveux blancs depuis très très jeune. Non, écoute, Céline a été une étudiante brillante qui allait dans la finance de marché, qui mm-hmm. était quelque chose qu'elle voulait faire sur Paris. Donc elle a travaillé pour pas mal de sociétés de courtage privées, des banques françaises et autres. Il y a un peu plus de 10 ans, moi, j'ai eu une opportunité de pouvoir venir d'abord en Angleterre, parce que la boîte pour laquelle je travaillais, l'agence pour laquelle je travaillais, est une boîte anglo-australienne et qui m'a proposé de venir à Londres.
Mm-hmm.
Je venais quand même passer pas mal de temps ici aux États-Unis pour chercher nos clients, ce qui a fini par sonner les cloches à mon CEO de l'époque et qui m'a proposé de venir ici déployer et développer les agences que l'on avait. J'ai emmené Céline avec moi pour voir un peu comment ça pouvait se faire. D'abord,
en repérage, tu veux dire, pour voir si ça c'était faisable pour la famille?
Ouais. Donc elle m'a suivi avec moi 3 semaines quasiment.
Mm-hmm.
On a passé une semaine sur Las Vegas au moment du CES. Quelque chose.
La semaine horrible, c'est la semaine la pire de Las Vegas de l'année.
Ah ouais, ça fait 20. voilà, hein, plus, on va rester gentil.
Mm-hmm.
Ça fait plus de 20 ans que je fais cet événement-là, que je viens passer du temps ici. Elle est venue. Elle a approuvé le projet.
Ok.
Donc on a approuvé le projet en janvier. En mai de l'année 2012, on a reçu les visas. Et en, août, on était parti.
Ah ouais, donc ça allait quand même assez rapidement.
Ça allait extrêmement vite.
Elles avaient quel âge vos filles à cet âge?
Emeline avait 3 ans, 4 ans.
Ouais, à peine 4 ans.
À peine 4.
Et Mathilde, 8 ans, puisque ça faisait sa deuxième année d'école élémentaire.
D'accord.
En tout cas, voilà, elle est revenue avec moi. J'ai eu la chance de pouvoir faire quelque chose, puisque la première chose qu'on m'a appris en arrivant aux États-Unis, c'est happy wife, happy life.
C'est vrai.
Voilà. Donc Céline était.
Donc gardez votre femme heureuse et vous serez
heureux. Et Céline était une cavalière.
OK.
Et donc, pour un de ses anniversaires, je vais vous faire un cheval.
OK.
Et donc, on a emmené le cheval avec nous.
Oh,
ça
wow.
a été dealé. Donc, le cheval est parti. Il est arrivé après nous. Il est arrivé un peu
c'était
moins.
Ta condition,
un mois d'après.
Pour partir aux US, Céline ?
Non, mais c'était un des points qui pouvait lui permettre de.
Ah oui, c'était un point d'attache en France.
Un point d'attache qui lui permettait
ouais.
d'avoir une activité autre que s'occuper, tu sais, des enfants.
Ouais.
Et de faire le taxi, quoi.
D'accord.
Parce que c'est vrai que les mamans ou les papas, en fonction de la personne qui vient ici pour son travail, le conjoint, en général, les premières années, c'est un peu Uber, quoi.
Mm.
C'est Uber avant Uber.
Mm, c'est vrai.
Voilà. Donc, Céline, pour être sûre qu'elle ait une activité autre que simplement attendre la fin d'école des enfants, ouais. on a ramené le cheval. Donc, elle a passé beaucoup de temps avec lui. Il est toujours en Californie. Hein, il vit sa vie peinard. Il est à la retraite. Il a une petite copine. C'est la première fois que je vois des chevaux vivre ensemble comme ça.
C'est vrai.
C'était très rigolo. Je suis allé le voir il n'y a pas longtemps.
D'accord.
Enfin, voilà. Donc, Céline est venue avec le cheval. Elle a passé beaucoup de temps avec et tout. Et au bout de 2 ans, déjà, on avait un problème de nourriture. Trouver de la nourriture comme nous.
Mais alors, attends, vous êtes allé vous installer où là? Tu vas trop
Californie.
Vite pour moi.
Ah non, je suis toujours en Californie.
Bah non, t'étais à Las Vegas il y a quelques secondes.
Bah, Las Vegas, et après, on a déménagé
et
sur la Californie.
Comment vous avez choisi la Californie alors,
c'est ma boîte.
qui a imposé ça
Bah, c'est pas qu'il a imposé, mais la légitimité d'être dans la Silicon Valley quand tu es dans une agence de Marcom spécialisée dans l'high-tech.
Mm-hmm. Ça avait du sens.
Il y avait plus que du sens, c'était ouais. une obligation. Donc, par exemple, j'étais l'un des. Sur San Francisco, WeWork, j'étais le premier lease qu'ils ont signé aux États-Unis.
C'est toujours marrant de procéder à ce jeu des présentations croisées. On voit clairement que l'un comme l'autre ne prête pas forcément attention aux mêmes choses. En tout cas, une fois le deal passé entre Céline et Christophe, les voilà qui se mettent donc en route pour la Californie, et ça plutôt rapidement, en quelques mois à peine, voilà la petite famille de quatre qui s'installe dans la baie de San Francisco.
Toi, tu connaissais les US, donc parce que tu dis que c'était ton 20e CES. Donc CES, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gros, gros show.
C'est le plus gros show de
consumer et tech qui a lieu début janvier à Las Vegas.
Qui existe depuis les années 60.
C'est ça, où les plus grosses innovations tech ont été présentées.
Événement en janvier qui dure quasiment une semaine.
Ouais, et qui est assez épuisant.
Qui est extrêmement épuisant.
Je regarde pas des très bons souvenirs personnels.
Ouais. Bah, c'est le bruit, les odeurs, le monde.
La foule.
Moi, c'est les odeurs. Moi, c'est les odeurs et le bruit.
D'accord.
Je peux plus. Chaque hôtel a son odeur, chaque hôtel a sa musique. Et comme tu vas d'hôtel en hôtel, t'es jamais dans les mêmes endroits. Ouais. La tête, elle explose, quoi.
Ouais, j'imagine. Et toi, Céline, tu connaissais les États-Unis un petit peu, je sais pas, par les vacances ou par...
Oui, exactement. Moi, je suis venue en tant que... Bon, on est venus tous les deux en tant que touristes. Donc, à l'époque, on avait fait plutôt la côte Est et principalement New York. Mm-hmm. Donc là, la côte Ouest, non, moi, je connaissais pas du tout. Et l'intérieur non plus.
D'accord. Et ça t'avait plu ? Enfin, je veux dire, ça a été, à part l'histoire du cheval, c'était dur de te convaincre de déraciner la famille, de venir t'installer aux US ?
Non, ça n'a pas été dur parce que professionnellement, bah, comme Christophe disait, j'étais dans la finance de marché, donc c'est quand même un métier très stressant.
D'accord.
Et arrivé à un certain moment, bah, c'est comme un petit peu dans le marketing et comme t'as ta dose, quoi, et t'as besoin de.
T'étais prête, c'était un bon moment pour faire un break.
T'es un peu bouffée par le stress et à l'époque, les enfants étaient en bas âge, donc il était temps de passer à autre chose. Et puis, je pense que bon, les filles étaient jeunes et c'était le bon âge pour bouger. Et moi, j'adore l'école en France. Je trouve qu'on a une très très bonne éducation. Là où on pêche un peu, c'est les langues étrangères. Donc si tu à l'heure actuelle, c'est important d'être bilingue, voire même trilingue, d'avoir plusieurs langues étrangères à ton arc. Et je trouvais que
c'était une chance de se déplacer pour
que les enfants soient bilingues. Voilà, c'était une belle opportunité.
D'accord. Ok. Donc ça y est, vous faites vos valises. Donc tu disais, vous avez vos visas et vous vous installez été 2012.
Première chose qu'on a fait, c'est qu'on a visité les écoles. Mm-hmm. Céline voulait absolument que les enfants aient une... Enfin, quand t'arrives et que t'es expat, tu sais jamais combien de temps tu vas rester.
Ouais.
En fin de compte. Donc là, tu vas dans pas la facilité, mais dans la sécurité. Donc la sécurité, c'est que dans la baie de San Francisco, t'as le lycée français ou t'as ISTP, qui est... International School of Peninsula.
Ouais, ça a changé de nom
voilà,
depuis.
Ça a changé là, il y a depuis, avec le Covid, ils sont agrandis et tout. Mais voilà, il y avait l'ISTP qui faisait maternelle, ça partait de la maternelle, même du kindergarten, donc même preschool. Enfin, ça va démarrer tout petit jusqu'à ce que tu rentres au collège.
Donc en fait, c'était un bon moyen pour les enfants d'avoir une transition en douceur. Et
surtout qu'on ne savait pas si on allait rester ou pas.
Ouais, donc, voilà, d'apprendre l'anglais, mais en restant dans un système français. Donc ça n'a pas été, je te l'ai mis dans l'école américaine, je suis perdue, je ne peux pas communiquer avec les autres parce que je ne parle pas la langue, c'est un peu dur. Donc nous, ça s'est fait en douceur et voilà, donc les filles, ça s'est bien passé. Et à partir du moment où ça se passe bien pour les enfants, voilà, ça se passe bien pour toi aussi, quoi.
Donc, on a fait ce choix-là de sécurité. On a cherché des maisons. On a trouvé une maison qui était... alors, on a eu une chance de... Voilà, un bol. Pas possible. Puisqu'on est tombé sur une maison dont les voisins étaient des Basques.
Ah, non,
puisque
ouais.
la baie de San Francisco est basque-français, gascon, Saint-Pé-de-Bigorre, tu vois. Des gens donc, notre voisine Renée est arrivée, elle a fait tout le périple en tant que petite fille après la guerre, bateau, train, Ellis Island.
Ah oui, donc des gens bien installés aussi. Quoi,
qui sont arrivés il y a très longtemps. Ouais. Lui est arrivé beaucoup plus tard, mais c'était les amis de la famille. Et c'était l'époque où les compagnies aériennes cherchaient des tourneurs-fraiseurs. Ce que les gens ne savent pas, c'est que les Basques sont venus dans les années 50 pour deux choses. Un, c'était les bergers et ils avaient besoin de bergers.
Aux US en général ou en Californie
Non,
en
Californie, plus précisément.
Okay.
Et après, ils avaient besoin de gens qualifiés, tourneurs-fraiseurs, chaudronniers, choses comme ça. Et tu n'as pas d'école ici.
D'accord.
Donc, ils importaient des qualités. Donc, ils ont importé les Français, les Basques francophones et les Basques espagnols.
Et pourquoi les Basques spécifiquement ? C'est une spécialité
j'en
qui est
rien,
plus exercée.
J'en sais rien. Alors, historiquement, tu sais que la Californie est un coin très francophone.
Ah, pour moi, tu vois, je suis restée au Mexique. Mais
ouais, alors Maximilien, c'est encore... voilà. Mm-hmm. Mais en tout cas, il y a eu une grosse partie de Français qui sont venus là.
D'accord.
Si je ne dis pas de bêtises, il y a un Bordelais qui est venu pour chercher pour le vin et autres. Il a trouvé quelque chose sur Santa Barbara. Puis après, il est remonté un peu sur la Napa. Enfin, il y a quand même une grosse histoire. Et avec San Francisco, elle est énorme. Donc, d'accord. Je sais qu'au consulat, tu as plein de panneaux qui t'expliquent un peu l'histoire. Mais le système de transport... urbains, dans San Francisco, ce sont les Français immigrés à ce moment-là qui l'ont mis en place. Le système médical, il y a plein de choses, les systèmes d'intervention, pompiers et autres, c'est assez français. Donc, tu as énormément de clubs, francs-maçons ou pas, dans la baie de San Francisco. Tu as un centre culturel basque, francophone,
c'est fou, ça.
Dans la baie, avec un fronton professionnel de pelote. Tu as plusieurs...
c'est génial.
Tu as un restaurant où... Enfin, tu rentres au Pays Basque quand tu es là, tu ne demandes même pas, ta soupe et ta salade.
Donc en gros, la Californie a une très forte empreinte basque et francophone, chose que j'avoue que j'ignorais complètement. Pour moi, la Californie, c'était le Mexique, point barre. En arrivant donc en Californie, Christophe et Céline soumettent une candidature, une application, pour devenir locataire d'une maison. La maison voisine donc de ses voisins basques. Si vous vivez aux États-Unis, ce sera peut-être pas une grande nouvelle pour vous. Sinon, je vous explique. En gros, quand on soumet une candidature, il y a des coins des États-Unis qui sont particulièrement concurrentiels, que ce soit pour acheter une maison ou pour en devenir locataire. Alors arrive la surenchère. On propose plus pour acheter la maison ou on propose plus pour louer la maison. On propose un loyer plus important afin d'être choisi absolument par les propriétaires. Et en fait, ce dont Céline et Christophe se rendent compte, c'est que ses voisins basques, eux, les ont aidés justement à obtenir cette maison. Et ça tombe plutôt bien parce que cette famille basque va jouer un rôle très important dans la suite de l'aventure de Christophe, Céline et de leurs deux filles.
Donc ces gens-là nous ont beaucoup aidés. Ils ont été des grands-parents de substitution pour les enfants.
Génial.
Parce que quand on avait besoin, ils pouvaient être là, ils pouvaient aider, faire du babysitting, des choses comme ça. On s'est vraiment accrochés. Nos parents, quand ils sont venus, surtout les parents de Céline, sont beaucoup accrochés, dans le bon sens du terme.
Ouais.
Quand eux sont venus en France, ils sont partis voir les parents de Céline.
Dingue. Ah ouais, donc relations hyper fortes.
Ouais, vraiment très très fortes avec ces gens-là. Quand on descend dans la baie... on en parlera un peu plus tard, mais on y va assez régulièrement, on passe les voir.
Ouais, c'est des gens qui font partie de la famille. Quoi.
C'est fait comme la famille. Voilà, c'est une famille étendue qu'on a trouvée, qui a beaucoup aidé à l'installation.
Et là, on comprend comment ça fonctionnait ici. Quoi.
Puis le fait qu'on se sente chez soi, finalement.
Ouais, exactement.
Ah bah, chez eux, à l'extérieur, c'est américain, tu rentres dedans, t'es dans une maison française.
C'est quoi une maison française ? C'est quoi les différences entre une maison française et une maison américaine ?
Bah déjà, à table, t'as de la garbure, tu trouves du jambon.
C'est quoi de la garbure ?
Ah, c'est un plat spécifique du sud-ouest.
Ok, moi je suis
Bretagne. Céline est normande. Voilà. Mais oui, tu retrouves ça. T'as du jambon, t'as des pâtés, t'as des rillettes, t'as des choses que tu
trouves
pas.
On sait recevoir, quoi, c'est
ouais,
que tu veux dire.
Tu sais recevoir. Tu sais recevoir, t'as une horloge avec un coucou qui sonne. Enfin, t'as des coques partout, t'as des photos des anciens sur les murs. Enfin, tu te sens.
Donc là, on est quand même dans votre cuisine.
Ouais.
Donc moi, du coup, je me dis qu'on est dans une maison américaine.
Ah ouais.
Parce que là, on n'a pas le coucou.
Non, pas du tout. Non, on est vraiment dans t'es vraiment dans une maison américaine.
On est arrivé il y a 2 ans et demi. Et c'est vrai que comme on fait aussi pas mal d'allers-retours en Californie, bon, pour l'instant...
On n'a pas trop touché.
Non, mais c'est pas un jugement.
On a trop le temps de décorer.
Non, mais c'était un idylle aussi. Quand on a déménagé, c'était surtout ne pas avoir de travaux à faire. Maison américaine, c'était des mecs dans le... Enfin, un couple qui était dans le pétrole et le gaz.
Mm-hmm.
Donc, si tu veux, on est vraiment dans un... Et leurs enfants, c'était leurs chiens. Donc pour dire, il y avait une pièce en haut, enfin, qui était une chambre,
c'était
et c'était la chambre
moi,
des chiens.
Faire des chiens.
C'est clair et net. Mais donc, en revenant sur comment ça s'est passé, on est revenu, donc on est arrivé là, on a eu des problèmes donc à découvrir un peu, comme tous les nouveaux expats, où tu vas chercher ta nourriture et autres, donc tu fais les mauvaises découvertes.
Alors c'est quoi, vous avez des anecdotes là-dessus? Des convenus au supermarché.
Ah ouais, bah oui, les premières fois où tu t'achètes une paire de saucisses que tu veux faire griller et que tu découvres qu'il y a du fennel dedans et que ou de l'anis.
Des fenouilles.
Ouais. C'est vraiment pas bon, quoi.
Ouais. un goût. Ouais.
Alors tu vous
c'est pas ça qui s'appelle les breakfast sausage ou
Non, c'est vraiment les saucisses italiennes.
Ah oui, c'est non, la, c'est ça, italienne sausage. C'est ça, c'est
alors
ça.
Tu l'as, t'as la spicy avec leur,
genre, ça a l'air
leur chorizo c'est... machin.
Un,
c'est pas pareil parce que c'est très sucré. Donc on a un vrai challenge sur ça. Tout est sucré ici. Le sucre est vraiment quelque chose d'important dans leur nourriture. Sauf que bah, quand tu es européen et spécialement français, que tu sois breton, normand, que tu sois du nord de la France ou du sud-ouest, c'est plutôt les épices, c'est pas trop le sucre. Donc tout de suite, tu te retrouves avec des problèmes à relire, à passer un temps fou dans les magasins, à relire tes étiquettes. Quoi. Tu
c'est un truc dont vous étiez conscient en France, enfin, genre vous étiez prêt à lire les étiquettes et tout
Non.
Non,
non, tu avais beaucoup plus de confiance sur ce que tu pouvais avoir.
Puis les réglementations, les étiquettes, tu peux les croire.
C'est beaucoup plus réglementé, mais tu vois, par exemple, nous, la viande, où on habitait, on avait un marché régulier. Qui était tous les samedis
Farmers Market, là,
non,
ça
non, en France.
En France. Oui, en France. D'accord. Pas les Farmers Market aux États-Unis, mais en France. Donc, notre viande et ça. Et on avait un boucher dans la ville qui était excellent. Donc, on cherchait notre viande là-dedans. Donc, dès le départ, on avait des choses de qualité quand on était sur Paris, enfin, la région parisienne où on habitait. On ne mangeait pas de la viande tous les jours. Hein. On faisait attention, mais on préférait, tu vois, faire attention et puis se payer un vrai une vraie bonne côte de bœuf ou de vraies saucisses une fois ou deux fois par semaine. Et t'es pas obligé de manger de la viande tous les jours ou du poisson tous les jours. Enfin, il faut équilibrer le truc. Donc déjà, sur ça, quand on est arrivé ici, ben on avait cette problématique qui était de... ben, y a pas de ces repères. Il faut tous les refaire. Donc, on va dire que nos voisins nous ont aidés.
Donc vous êtes partis en mode, on n'a pas confiance tout de suite, quoi.
Oh non, pas du tout. Non, on est parti en mode, ben, on découvre avec les inconvénients et les avantages. Donc, ben, tu t'aperçois que, par exemple, au niveau administratif, c'est comme en France, c'est long, ça peut être compliqué, rien que pour avoir un numéro.
Ah oui, moi je trouve ça vachement plus simple quand même.
Ah ouais, numéro de sécurité sociale, on a mis du temps à l'avoir quand même. Bah oui, c'est vrai, le crédit history aussi, quand tu arrives au début, c'est compliqué. Donc quand tu veux faire des listes de voitures, c'est pas simple non plus. Après, bah, tu découvres l'alimentation, tu te rends compte que tu ne peux pas faire tes courses dans le supermarché, que c'est un supermarché, c'est compliqué, il faut aller dans plusieurs pour trouver différents produits que tu aimes bien.
Donc c'est quoi ? Tu as le Safeway pour les trucs de base, tu as le Trader Joe's pour la pâte feuilletée, tu as le machin
Safeway,
pour les machins.
Tu as Safeway, Lucky, alors nous on avait un tout petit qui s'appelait...
Costco aussi, quand tu veux acheter tout ce qui est produits ménagers, c'est pas mal en grande quantité.
Et puis on avait le tout petit à côté là.
Lucky.
Non, pas le Lucky. Celui que Jean et René nous ont emmené. Ah, oui. On appelait chez les vieux.
Key Market, oui. Bon,
Key Market,
c'est
donc c'est une petite épicerie familiale. Donc ils coupaient, ils avaient un boucher. Les fruits étaient locaux, des choses comme ça. Donc c'était un peu plus cher, mais au moins tu savais que tu avais de la bonne cam. On trouvait du veau là-dedans, par exemple.
D'accord.
Tu vois, un truc, va chercher du veau ici. Aux États-Unis en général, le lapin, certaines viandes, c'est même pas la peine. Il y a des coins, c'est même pas la peine de leur demander, il n'y en aura pas. Donc oui, on a découvert petit à petit comment on pouvait s'alimenter.
Mais c'est épuisant hein, parce qu'en gros tu passes ta vie, enfin faut que tu passes une journée de boulot pour aller faire le tour de tous les supermarchés pour faire à peu près ton marché parce qu'on cuisine quand même beaucoup dans notre culture. Quoi.
Alors ça c'est l'autre truc, c'est que les cuisines ici sont décoratives, mais pas du tout
pour
en général pour un Américain. C'est assez décoratif.
Ils
cuisinent très très peu. Beaucoup de take-out, donc c'est très vite. Ils mettent beaucoup dans le frigo, des choses comme ça, tu vois. Mais ils cuisinent très très peu.
C'est pour ça que les frigos sont énormes aux US.
Je pense que ça fait partie. Mais c'est une culture. Après, on va dire que dans le business dans lequel on a continué, c'est un avantage, tu vois. Si cuisiner tout le temps, c'était compliqué. Mais là, quand c'est déjà préparé, tu as plein de choses, donc ça te permet d'offrir d'autres choses. Donc, viande, poisson, tous ces trucs-là, il fallait vraiment trouver. Malgré qu'on soit dans la baie de San Francisco, hein, quand tu vois qu'une huître est entre 1 et 2 dollars, tu te dis...
Et que tu l'achètes à la pièce.
Et que vous voyez, que tu l'achètes à la pièce, vous voyez toutes les deux, là, vous êtes normande. Pour 20 balles, t'as une bourriche, quoi. Enfin, c'est, tu pètes un câble. Tu te dis, les mecs, vous marchez sur la tête, quoi. Après, t'as plein de raisons pour lesquelles ça coûte ce prix-là, mais quand t'es européen, t'arrives, tu regardes le prix des choses, tu te dis, mais ils sont fous. Ils sont fous.
Puis déjà que vous arrivez dans une région qui est chère, et en plus, manger bien est quand même très très cher ici.
Ouais, mais tu vois, on va revenir, nos voisins, donc c'est les anciens, hein, ils avaient 70 ans à peu près quand on est arrivé, hein, parce qu'ils sont sur les 80 maintenant, un peu plus, mais ils faisaient leur pâté, leur rillette, leur jambon. Donc la carbure, qui est une espèce de bourguignon, c'est un... Tu vois, c'est la viande qui est cuite.
Ah, c'est comme la carbonade dans le Nord.
Ouais, tout le monde a sa façon de faire les choses. Bon, là, il n'y a pas le vin et autres, mais. Donc, ils faisaient beaucoup de choses eux-mêmes. Les tripes, tu vois, plein de choses comme ça. Donc, bah, moi, venant d'une famille d'agriculteurs, du côté de mes grands-parents, mon père a été boucher charcutier.
Ça te parle?
Ouais, ça m'a parlé tout de suite. Donc, j'ai commencé à faire avec eux.
Et t'en avais déjà fait avant de venir aux US?
Oui. Bah, tu sais, dans la famille.
Dans la famille, quoi. T'as passé tes étés.
Moi, j'ai passé mes étés à travailler à l'abattoir de mon oncle.
D'accord.
Sur les lapins, les chevreaux, les moutons.
Ok.
Le commerce de champignons. Et c'est en pleine campagne, quoi. Tu vois, t'es entre la Haute-Vienne, la Charente et la Dordogne. Donc, c'est vraiment. Okay. Le point est vraiment au milieu et je rigole pas en plus. Si vous regardez sur la carte, ce petit village s'appelle Saint-Mathieu. C'est vraiment au milieu, là. Et c'est les trois frontières de tout. C'était vraiment pas loin. Et donc, j'étais allé là-dedans. Mon grand-père était spécialisé dans le veau élevé sous la mer. Pff, attention, grand truc. Donc, voilà.
C'est important, ça, en France.
Voilà. Donc, on était dans la viande et que son frère était boucher charcutier. Son autre frère était fermier. Enfin, il était agriculteur. Oui, fermier, c'est un fermier, un agriculteur. Lui était agriculteur. Mon oncle et ma tante étaient là-dedans.
Donc,
les
très,
cousins,
très forte culture familiale.
Ouais, les cousins étaient dans la charcuterie aussi. On avait des oncles, des cousins qui étaient bouchers charcutiers, traiteurs. Enfin, c'est une histoire de famille qui date de quelques siècles. C'est pas tombé.
Donc, du coup, t'hésites pas deux secondes, tu t'y mets avec tes voisins.
Bah, quand j'ai vu que eux, déjà, ils avaient les bonnes adresses, comme tu dis. La première fois que j'ai voulu faire des rillettes de canard, parce que le canard est quelque chose de. Une petite passion pour moi au niveau de la viande.
Tu viens du Sud-Ouest.
Et écoute, le premier canard que j'ai fait, un canard entier, j'ai à peine réussi à me faire un pot de 400 grammes de rillettes.
Ah ouais.
Et j'ai fait, on va avoir un gros problème parce que là, les rillettes de canard au canard qui coûtent une fortune, ça ne va pas le faire. Quoi.
Ouais.
Donc après, ils te font découvrir qu'il y a plein d'autres gens, il y a plein de gens qui élèvent des canards dans la baie de San Francisco large.
D'accord.
Très large, mais donc ils nous ont fait découvrir plein de choses, découvrir
que quand t'as,
c'est même pas des fournisseurs, c'est que les Chinois ils bouffent tout.
Les quoi?
Les Chinois mangent de tout. Et donc quand tu cherches des produits bien spécifiques pour faire des rillettes ou autres,
tu les trouves facilement dans la région, quoi.
Chez eux tu les trouves. Eux tu les trouves parce qu'il y a tout. Il y a de tout.
C'est la culture gastronomique chinoise est hyper.
C'est
un énorme spectre.
C'est pas ça, c'est qu'ils ont énormément de produits. Et tous les produits que tu peux imaginer, que d'habitude nous on trouve dans une boucherie ou autre, et ben eux ils l'ont dans le supermarché, un petit supermarché.
D'accord, ok.
Non, puis dans la baie de San Francisco, la communauté asiatique est importante.
Ouais.
Donc, coup, tu as beaucoup d'épiceries, supermarchés. Oui, ils font venir beaucoup de choses d'Asie. Donc, tu arrives à trouver beaucoup de produits asiatiques.
D'accord.
Et en fait, en effet, quand ils mangent à peu près toutes les viandes, donc du coup, quand tu vas dans un supermarché asiatique, tu as une offre qui est plus importante que si tu vas chez Safeway ou Lucky ou King Super.
Oui, c'est ça. Mais tu retrouves ici aussi, en grattant un peu. Donc, on a commencé à fabriquer pour nous.
Ok, donc
avant tout.
Donc là, ça fait combien de temps que vous êtes arrivé aux US?
Un an et demi. Un an et demi.
Ouais.
Au bout d'un an et demi, on fabriquait beaucoup de choses nous-mêmes. On achetait nos viandes en gros, on les découpait, on les faisait nous-mêmes.
Ah ouais, mais c'est un peu.
Oui, bah après, quand tu arrives aux États-Unis, tu fais. Bon, là, on parle de la charcuterie parce que c'est un peu notre domaine, mais il y a plein de choses que tu fais toi-même. Parce que une bûche de Noël, à l'époque, tu ne trouvais pas. Ouais. Enfin, il y a 10 ans, tu ne trouvais pas. Maintenant, tu arrives quand même.
Je faisais
la pâtisserie boulangerie.
Je faisais pas ma pâte
fraîche. Je
simplement bien aux États-Unis, donc tu arrives à trouver des choses. Mais la galette des rois aussi, tu ne trouvais pas. Donc,
c'est ça.
Moi, je n'avais jamais fait de galette des rois de ma vie, on va dire, en France. Parce que c'est un truc que j'étais tout. C'était facile d'acheter
ça,
à la boulangerie.
Tant que t'as pas besoin.
Donc, tu vois, nos voisins nous ont filé des pieds de piment d'Espelette, par exemple. Parce qu'il venait du truc, donc on avait du piment d'Espelette. Ce que beaucoup de gens pensent, c'est pas qu'une épice, parce que c'est comme un poivron.
Ouais.
Donc on les mange verts, comme des poivrons en salade.
D'accord.
Et plus ils rougissent, et plus ça devient un peu pimenté.
Ouais.
Mais c'est pas un piment comme le jalapeno mexicain qui te détartre les dents si tu fais pas attention et que t'es pas prévenu.
Ça s'arrête aux dents, c'est pas mal. Mais...
Ouais, parfois ça va plus loin. T'as l'estomac qui est retourné et tout. Mais non, on a commencé nos tomates, on a commencé beaucoup de légumes. Donc on avait toute une bande où les gens mettaient des fleurs. Nous, on a tout arraché et on a mis des légumes, quoi.
D'accord.
Donc on allait
des herbes aromatiques, quoi.
Ouais.
Alors, bien entendu qu'il y aura toujours des exceptions, mais c'est vrai. C'est vrai en discutant avec des Français partis à l'étranger ou d'autres cultures d'ailleurs qui se sont expatriés, on a tendance, Bah, quand on ne trouve pas ce qu'on cherche en commerce, à se demander comment est-ce qu'on peut les faire nous-mêmes. Tenez-vous, vous qui habitez à l'étranger, qui nous écoutez, est-ce que vous aussi, je sais pas, vous vous êtes mis à faire votre pain, vos tartes, ou encore la fameuse galette des rois dont Céline parle ? Bah, y a des chances que oui. Et c'est donc ce qui s'est passé pour Céline et Christophe. Sauf que, vous vous en doutez, ils ne se sont pas arrêtés là.
Quand on est parti de France, j'ai arrêté mon métier. Mm-hmm. Donc, je suis restée 2 ans, en fait, sans travailler. Mm-hmm. Puis, surtout, pas envie de retourner dans la finance de marché, ouais, et la banque. Donc, se demander aussi ce qu'allait être l'après, quoi.
Mm-hmm. Et à monter ton cheval.
Et m'occuper de mon cheval, ouais, aussi. Ouais. Voilà.
Passer beaucoup de temps. C'était le troisième enfant.
Ouais, exactement.
D'accord, ok. Donc alors vous vous lancez dans la cuisine tout fait maison, comme tu dis ?
Ouais, alors ça arrivait un peu différemment, c'est que comme on fabriquait nous-mêmes beaucoup de choses en charcuterie, quand on faisait des potluck avec les potes et choses comme ça, ce qui était assez régulier, hein, la Californie est aussi ensoleillée que le Colorado, mm-hmm, on va dire qu'on y était quand même assez régulièrement, nous on ramenait pas de pinard, on ramenait de la charcuterie, on ramenait des pâtés.
Et là, les Français, ils ont commencé à vous passer commande.
C'est arrivé comme ça, en disant, écoute, il n'y a personne dans la baie, il y avait juste une autre boîte qui existait depuis très très longtemps et tout, mm-hmm, mais ce qu'on faisait, c'était assez traditionnel, mm-hmm, et puis on continue à faire la même chose, hein. On ne cherche pas à réinventer la messe, mm-hmm. Quelques produits sont un peu créatifs, mais la plupart du temps, on reste sur...
Des classiques.
Ouais, on est parti sur un constat où on essaie de ramener aux gens, et c'est ce qui a fait qu'on en a fait une boîte. Ce qu'on a fabriqué, ce qu'on a produit, c'est pour redonner aux gens des souvenirs du pays.
De ce qui nous manque.
Ou de leur enfance, ou de leurs parents, ou quelque chose, mais ils ont retrouvé un goût, une saveur, un parfum qu'ils avaient quand ils étaient en Europe. Mmh. Petits, grands, peu importe. Mais on s'est vraiment attaché à ça et c'est toujours notre ligne de direction. D'accord. C'est tout ce qu'on fait, ça doit te donner un feedback olfactif au niveau du goût, mm-hmm, et tout de suite ça doit te pigner dans la tête. Ouais, on va dire que ça fait comme avec Ratatouille quand il mange la ratatouille et qu'il pense à sa mère, il s'est fait bobo et autres. On va pas dire qu'on est jusqu'à ce niveau là, mais
c'est la madeleine de Proust.
Ouais, c'est la petite madeleine de Proust pour les Français, c'est de leur dire que voilà, aujourd'hui, sans prendre de risques, notre saucisse de Toulouse, nos merguez, il n'y a pas mieux sur tout le territoire américain. Mm. Pourquoi ? Parce qu'on fait des choses tradies, mm-hmm, vieilles, simples. On ne va pas chercher à réinventer la messe, mais qui rappellent tous les gens qui mangent ça, ça leur rappelle le pays. Ça leur rappelle leur enfance, leurs vacances et autres. Mm-hmm. Et donc, on a réussi notre boulot. Ça a donné du plaisir aux gens.
Ouais.
Tu vois ?
Alors attends, on a sauté plein d'étapes là dans la chronologie.
En tout cas, les gens en Californie nous ont imposé, enfin pas imposé, ils nous ont poussé à créer une boîte.
D'accord, ok. Et c'est arrivé à quel moment ça ? C'est
2015.
Donc vous avez régalé la famille et les amis pendant 3 ans avant.
Ouais, 2 ans, 2 ans et demi. Et en fait.
Et comme beau mec dans la tech, j'ai fait un Kickstarter.
No way, d'accord.
C'est...
Donc une campagne de financement participatif.
Ouais.
Ton objectif, c'était quoi pour la...
10 000 balles pour voir ce qu'on pouvait faire, tu vois.
Ouais, puis acheter les premières machines.
Ouais, l'équipement. Tu vois, l'équipement, c'était vraiment pour l'équipement. Sauf que au bout de 10 jours, j'ai tout arrêté parce qu'on avait fait 20 000 balles de commandes.
Ah ouais, d'accord. Okay.
Qu'on n'avait aucune licence, on n'avait rien du tout, on ne savait pas du tout.
Donc, tu n'étais même pas sûr d'être super légal, quoi,
quand on a décidé de monter la charcuterie, de toute façon, quand tu es dans le domaine alimentaire, tu peux pas te permettre d'échapper ou avoir tous les permis.
Pas de licence,
non, parce que bon, c'est non, pas, on a fait d'abord le Kickstarter et après, c'est vrai qu'en fait, on est allé, on a cherché la cuisine professionnelle. Et puis après, on a fait toutes les autorisations auprès du HERS pour avoir les permis, les licences et les choses comme ça. Donc, quoi qu'il arrive, tu ne peux pas exercer et tu ne peux pas produire avant d'avoir ces licences-là, quoi.
D'accord.
Autant sur, par exemple, quand tu fais de la pâtisserie, tu as ce qu'ils appellent ici des cottage food où tu peux faire de chez toi. Mais autant quand tu travailles sur de la viande crue, tu ne peux pas faire de chez toi. C'est impossible. Donc, il faut vraiment être en cuisine commerciale et puis avoir ces licences-là.
Mais on va être honnête, ça a été assez rapide. On a ça début décembre. On a coupé ça mi-décembre.
Ouais.
Et en mars, on a démarré. 2016.
D'accord. Donc la création de la boîte, Toi, tu bosses toujours
Moi, je suis toujours légalement, je suis avec un visa de travail, je suis collé à une boîte.
T'as un visa
j'ai
qui
pas
est...
le droit, okay. Je peux pas travailler pour quelqu'un d'autre. J'ai pas le droit. Donc Céline
Donc tu es même pas sur les statuts de la boîte du coup ou tu as le droit quand même d'être sur les statuts?
Alors, j'ai le droit d'être sur le statut mais j'ai pas le droit de travailler.
Pas le droit d'être
pas toucher de salaire, existant. J'ai pas le droit de me consacrer, ça peut pas être mon activité première.
Okay.
Je peux lui filer des coups de main, c'est un machin, ouais. Ça change rien du tout, mais je n'ai pas le droit d'être propriétaire
exécutant,
de la boîte,
etc.
Exécutant
d'accord.
Ou autre.
Et toi, Céline, on a parlé du coup de Christophe, mais c'était quoi ton... Donc, je sais que tu étais prête à passer à autre chose, tellement, quand vous avez quitté la France. Mais c'était quoi ton attache à la cuisine? Est-ce que toi aussi, t'as grandi avec, je sais pas, enfin, de la famille?
Alors moi,
j'ai
grandi avec une maman qui est une excellente cuisinière.
Ouais.
À la base, Christophe et moi, on est de bons vivants, donc on aime bien manger.
Ouais.
Tout début, quand Christophe m'a connue, ça fait très très longtemps, mais j'étais pas une excellente cuisinière, mais je m'y suis mis en ayant mes enfants. Et puis comme on apprécie la bonne nourriture, bon, tu recherches toujours à t'améliorer dans ta cuisine. Donc moi, c'est vrai qu'à la base, j'étais plus pâtisserie que salé. Mais bon, après, Christophe m'a montré les techniques et puis tu apprends aussi sur le tas.
Ouais.
Et puis pareil, tu cherches toujours à te perfectionner. Donc, c'est des gestes, c'est des améliorations de recettes, toujours chercher les meilleurs ingrédients, tu vois. Donc, Christophe m'a montré et puis après, tu apprends sur le tas.
Et c'était quoi la première charcuterie, par exemple, que tu as apprise à faire, tu t'en souviens?
Je pense que c'était... c'est les basiques, en fait, de la charcuterie. Donc, c'est les chipolatas, saucisses de Toulouse, chipolatas, saucisses de Toulouse et puis les rillettes.
D'accord.
On est passé au côté un peu plus sanguin plus tard.
Ouais.
Moi, je suis preneuse de petites histoires, si vous avez des petites anecdotes, des trucs de votre apprentissage.
Oh, on a... Même pas que sur l'apprentissage, c'est même sur le fait que je pense qu'on était les seuls en cuisine commerciale à faire de la charcuterie.
D'accord.
Donc,
du coup, vous aviez une cuisine partagée, c'est ce que tu
veux dire? Au début, oui.
Comme
au
un
début.
WeWork de cuisine, quoi.
Tout à fait.
Exactement, ouais.
Un WeWork de cuisine. Et donc, saison des fêtes, quand on a commencé à lancer les premiers boudins noirs.
Même beaucoup de sang.
Là, on a perdu du monde.
Comment ça?
Le propriétaire de la cuisine a eu la très très bonne idée de faire visiter la cuisine au moment où on faisait du boudin et que j'avais les bras dans le... Ah, c'est clair. Bon, c'est pas partout, c'est que j'avais les bras...
Dans la gamelle avec la
dans la gamelle
le sang,
avec le sang pour pas qu'il coagule, en train de tourner. Donc, si tu veux, ça fait un peu scène de crime CSI San Francisco.
Venez
et
travailler
les gens, ils sont rentrés. La tête qu'ils ont fait, je pense qu'ils ont...
Ils étaient choqués?
Pas choqués, mais ça les a... vraiment stoppé net. Et le proprio a tourné la tête, fait alors donc de l'autre côté, et il les a ramenés. Et je pense qu'il nous en voulait un peu, mais on l'avait prévenu, on lui avait dit viens pas nous voir, viens pas nous voir, c'est pas le bon moment. Après t'as
les boudins noirs, le boudin noir, ça a quand même toujours interrogé beaucoup de cuisiniers dans la cuisine à ce moment. Parce que c'est des choses.
Et les gens autour venaient vous poser
des questions. Puis viennent voir, même déjà faire des saucisses, c'est vrai que quand tu es en cuisine commerciale, c'est pas... T'as beaucoup de pâtissiers, de boulangers, en Californie, beaucoup de cuisine mexicaine, de catering, de choses comme ça, enfin des traiteurs. Mais c'est vrai, de la charcuterie, faire des saucisses, donc même faire les saucisses, ça, ils aiment bien venir voir. Ça les intrigue.
Ouais. Ah, c'est marrant.
Voilà. Enfin, le boudin noir, faut le goûter, quoi.
Alors là, donc, le boudin avec le sang, c'est le... Ouais,
tu prends la cuillère, tu mets le boudin chaud, plein de sang, dans la bouche pour goûter l'assaisonnement et tout. T'as les gens, ils te regardent, ils partent, quoi. Enfin, ils s'en vont.
C'est un cannibale.
Et en plus, avec ces boudins, on a que des histoires. Donc, la première fois où on a été contrôlé par le Health, c'était même la FDA, si tu te rappelles, la personne qui nous envoyait était vegan. Végétarienne. Sûr qu'elle était végétarienne.
Cherche les problèmes, quoi.
Non, mais elle savait pas.
Ouais.
Elle n'avait pas été informée comme il faut.
Plus,
donc, quand elle est arrivée dans la salle de prod, la viande ne lui posait pas de problème. Mais là, quand elle a vu le sang, elle a pris Céline et elles sont parties. Elle nous a inspectés dans le salon. Quoi. Impossible de venir dans la salle.
Ah ouais.
Elle a dit, je vais me sentir mal.
Ouais. D'accord.
Donc, ça a été très rigolo.
Donc, elle a quand même réussi à finir, mais de loin.
Mais avec
quoi.
Céline, mais de très loin.
Ouais.
Elle n'est jamais revenue. On l'a jamais revue. Et c'est vrai, en plus,
non,
on l'a jamais revue.
On en a revu d'autres. Quand même.
On en a revu d'autres, mais elle n'est jamais revenue. Elle a vite passé le dossier à quelqu'un d'autre.
Ouais,
en disant, non. C'est toujours la bonne idée de venir au moment où on est en train de faire les boudins, le boudin noir. Écoute, ce n'est pas de notre faute, mais ça a été. C'est des petits trucs rigolos sur ça, mais c'est vrai que le boudin noir a vraiment attiré. À chaque fois les gens au mauvais moment.
Donc, vous lancez votre business, Goodies French Cuisine. Donc, Céline...
plein temps.
À temps plein. Vous êtes lancée suite beaucoup à des demandes des copains et de la communauté française locale. Mais c'était quoi, du coup, votre marché cible? Parce que, comme tu dis, les Américains, ou après, dans la baie de San Francisco, c'est une communauté très cosmopolite, mais... ils n'ont pas forcément cette recherche en fait de ces produits quoi. Votre objectif c'était quoi? C'était les Français.
Tout à fait, parce qu'en fait aux États-Unis, la charcuterie française n'est pas connue.
Oui, pas forcément plébiscité quoi. Ils connaissent pas.
Exactement, ouais. Exactement, parce que autant la charcuterie italienne, allemande ou polonaise ils connaissent, française ils connaissent pas du tout. Donc dans un premier temps, on avait la chance que dans la baie de San Francisco, tu as une communauté francophone qui est assez importante. Mm-hmm. Donc et comme tu fais en général des barbecues tous les week-ends, c'est le bouche à oreille en fait qui a fonctionné avec la communauté francophone départ.
C'est bien vrai.
Après quand tu aussi la communauté asiatique aussi dans la baie de San Francisco, parce que ils adorent le canard et des rillettes de canard. À l'époque aussi, tu pouvais produire le foie gras en Californie, donc ça ils adoraient.
Il n'y a plus le droit là.
Non, tu peux plus le produire en Californie. Tu peux l'acheter d'un autre état, mais tu ne peux plus le produire en Californie.
D'accord.
Donc le nôtre, tout est produit au Colorado.
Donc on est 2016, la boîte est créée. Bouche à oreille, est-ce que vos prédictions sont vérifiées quoi? Du coup, est-ce que vraiment le bouche à oreille, la machine s'emballe un peu dans la région?
Oui, tout à fait, parce qu'en plus, comme il n'y avait pas à l'époque et que toute la communauté française recherchait ce type de produit, oui, ça a bien marché. En plus, tu as la chance d'être en Californie, donc globalement, tu peux faire des barbecues 11 mois sur 12. Mmh. Donc oui, ça a bien pris en fait. Comme en plus on était vraiment pris dans la production, qu'on était tous les deux à l'époque, on n'a pas le temps de faire du marketing ou de la communication. Donc c'est vraiment le bouche à oreille qui a fonctionné. Ouais.
C'est quand même le comble, parce que ton boulot c'est le marketing et la communication, mais du coup vous n'avez pas fait du tout, parce que tu avais ton boulot de jour.
J'avais mon boulot de jour et mon boulot de la nuit et du week-end.
C'est ça. Mais comment on fait tous les deux pour gérer aussi une famille? Parce que vous avez des jeunes enfants quand même à ce moment-là. Comment ça s'est passé parce que lancer ce business, c'est en couple du coup, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un backup quand papa et maman sont débordés de travail. Comment ça s'est passé?
L'avantage, c'est que même si on a un business dans la food, donc c'est vrai que tu comptes pas trop tes horaires, mais n'est pas non plus dans la restauration, c'est-à-dire que tu n'as pas non plus besoin d'être dans la cuisine jusqu'à 11h minuit. Tu peux avoir des horaires entre guillemets de bureaux classiques, il y a des bien sûr dans l'année tu as des périodes de pointe où tu peux être jusqu'à 4h du matin en cuisine qui sont les fêtes, ça tu vas pas y échapper, mais globalement n'étant pas même si t'es dans un business alimentaire, t'es pas non plus dans la restauration, donc tu peux faire ta production en journée et puis arrêter au moment d'aller chercher les enfants à l'école et faire les activités, c'est un peu ce qui se passait. Et puis si moi je dois ou si Christophe doit aller chercher les enfants, il y en a un qui reste pour continuer la production.
D'accord.
Donc au tout départ, quand les enfants étaient en bas âge, on a réussi quand même globalement à concilier.
Comme une grosse logistique.
Ouais, tout à fait.
Mais on est passé de quelques centaines de kilos, qui étaient au début. Donc centaines de kilos, ça paraît beaucoup, mais quand tu livres des écoles pour les barbecues, c'est de fêtes de fin d'année.
Ouais,
les groupes catholiques aussi. Donc quand on avait des moments réguliers, on faisait les barbecues de ces gens-là et tout. Ça fait quelques centaines de kilos. Aujourd'hui, on est à 30 tonnes.
Par quoi?
Par an.
Entre la Californie et le Colorado.
Ouais.
Non, puis au tout début aussi, on était en temps partiel, entre guillemets. C'est-à-dire que sur la semaine, tu avais 3 jours de production. Comme nous, en fait, on n'a pas de magasin, donc on livre aussi une journée ou deux de livraison. Donc globalement, t'es passé toujours
pas tous les bons fournisseurs non plus. Au tout début, on avait des gens qui nous fournissaient, mais que des petites quantités. Ils n'étaient pas capables de nous fournir les quantités qu'on a aujourd'hui. Mais à notre niveau, on est quand même passé de quelques centaines à 30 tonnes. Quoi.
Et toujours à deux?
Ah non. On a beaucoup plus de monde. Et puis, on a une unité de production en Californie qu'on a gardée, donc, qui est sur Belmont, où on a 4 personnes.
À temps plein?
Mi-temps. parce que c'est des périodes que tu produis, puis après, il faut vendre. Alors, ces personnes-là sont à mi-temps sur la prod, et après, à mi-temps, parce qu'ils distribuent et ils organisent les livraisons et les expéditions. Donc, ce n'est pas du tout le même travail. Et ici, au Colorado, on est monté sur les périodes de marché, puisqu'on fait 7 Farmers Market. Cette année, on va sûrement faire un peu plus. Mais ici, en pleine saison, on monte, puisqu'on... On va dire qu'à...
Mais du coup, vous avez des saisonniers.
On est quatre, là.
Donc,
on a deux, on en a deux, en plus, toute l'année.
D'accord.
Et en haute saison, tu rajoutes entre 3 à 5 personnes en plus.
D'accord.
Dans la cuisine. Hein. On parle simplement dans le lab.
D'accord, en production.
Produire.
D'accord.
Ouais. Rien que sur la prod. Après,
c'est
sur
cool,
les marchés, bah, voilà, c'est 7 à 8 personnes en plus, parce que certains marchés, tu as besoin d'être deux, tout seul, tu n'y arrives pas. Quoi.
C'est un bon problème à avoir. C'est-à-dire qu'il y a du monde, il y a de la demande.
Ouais. Non, on va pas se plaindre. Donc aujourd'hui, oui, on a une petite entreprise avec moins d'une dizaine de salariés. On a des saisonniers, ce qui est normal en fait, puisqu'on travaille beaucoup là-dessus. Mais oui, au tout début, c'était Céline surtout, beaucoup Céline. Et moi,
j'intervenais. C'est un sacré changement de boulot, de la finance à la production, au marché. Enfin, c'est un métier complètement différent.
Ah, tout à fait, tout à fait. Mais moi, ça m'a plu. Parce que quand tu es dans la finance de marché, en fait, tout est immatériel. La corbeille à la Bourse de Paris a fermé depuis des années. Donc, en fait, tout se fait. C'est des transactions immatérielles sur ton ordinateur. Et là, d'aller fabriquer ta charcuterie, des saucisses, c'est concret, en fait.
Avoir un produit.
Et tu, exactement. Tu vois ton produit se fabriquer. Oui.
Tu es plus créatif. Créatif aussi.
T'en sors une certaine fierté quand même d'avoir fabriqué ça. Et puis, on a la chance quand même d'être en contact encore avec la clientèle. Et c'est toujours plaisant d'avoir les retours sur tes produits.
C'est important pour vous justement d'avoir ces deux aspects, d'être et dans la cuisine et au contact des clients.
Bien sûr. Parce
depuis
que ça...
le début.
Ouais, bien sûr, c'est ce qui nous a aussi permis de développer de nos produits en fonction des demandes de la clientèle. Y a des gens qui disent vous savez, par exemple, nous, on vient des Alpes, de la Savoie, et la Savoie, c'est les duos, et les duos, on n'en trouve pas ici. Les duos, c'est des saucisses savoyardes, en fait.
D'accord,
avec du vin blanc.
Et
donc, du coup, vous avez appris en
voilà, vrai. Exactement. En fait, il y a des produits qu'on a développés parce que des clients nous les demandaient.
Ouais, on a fait la Morteau, on est un des rares à avoir de la Morteau aux États-Unis.
D'accord.
Du saucisson lyonnais.
Ah, génial. D'accord. Et donc ça, c'est parce que
produits,
vous gardez ce contact avec les clients.
Qu'on fait, que l'on a développé suite à des demandes.
D'accord.
Même des produits qui ne sont pas français. Donc, des saucisses italiennes ici, la sweet italienne ou la hot italienne. On en a développé pour certains magasins dans le Colorado. Et en fin de compte, c'est une des saucisses qui vendent le plus.
Ah, c'est dingue.
Et c'est pas du tout une saucisse qu'on connaît, mais en travaillant, en leur donnant du parfum, en utilisant les bons produits, les bons ingrédients, les bonnes épices, on fait de très bonnes saucisses. Et voilà, c'est juste le temps de pouvoir développer ce genre de choses.
Ouais.
Et donc, on écoute ce que nous disent les gens.
Ouais.
Il y a des choses qu'on n'arrive toujours pas à faire proprement. Pas parce qu'on n'est pas encore chez nous, ici au Colorado, et que de le faire en Californie et de le rapporter, c'est compliqué. Donc, il y a des produits qu'on n'a toujours pas mis sur le marché parce qu'on n'a pas encore le temps et la façon propre de les faire. Donc, la mortadelle, par exemple, qui est quelque chose qu'on nous demande beaucoup, elle arrive. Elle arrive, mais ça prend du temps. Mais ça prend du temps, ça prend du temps d'être fier de ce que tu fais.
Bien sûr.
Donc, quand on revient sur ce que Céline a dit, sortir de sa salle de marché... ma femme n'était pas quelqu'un de très créatif. Pas du tout.
C'est vrai.
Voilà.
Ouais. La finance, on ne te demande pas d'être créatif,
non.
En fait.
Oui, c'est pas ton boulot.
Elle est hyper carrée. Donc, si tu veux, il a fallu on va dire que le fait d'avoir fait la charcuterie, de devoir s'en occuper, parce que moi, j'avais un boulot, a fait qu'elle a dû être créative. Donc, ce qui a été cool, c'est qu'elle a été récompensée en 2017 pour la meilleure saucisse en Californie.
Bien joué.
Une saucisse, alors qu'on ne vend pas encore ici. Un peu, mais pas beaucoup, qui est à la sauge et au zeste de citron. Mais c'est un citron pamplemousse. Donc, ça a un goût spécifique. Et avec cette saucisse-là, elle a remporté un prix.
Bien joué, bravo.
Et donc, c'est là où tu te dis que c'est pas parce que tu viens d'un métier qui est, pour moi...
Il n'est jamais trop tard.
Boring au possible. Derrière un écran, voir des chiffres et compagnie. Voilà. Et parier, pour moi, c'est du pari, ce qu'il faisait. Donc, c'était même pas, tu vois, voilà. Et qu'elle s'est lâchée en disant, tiens, on pourrait mettre ça, on pourrait faire ci, on pourrait faire là et tout. Et c'est venu d'elle-même, quoi. Elle en a fait une autre qui est celle au bacon et qui est une des saucisses qu'on vend le plus et qui est un accident et en plus.
C'est
un, bah, on mettait du bacon dedans et moi, je suis en train de couper des, tu sais, les green onions. La cébette. J'ai fait tomber la cébette dans sa mixture. Donc, tu peux imaginer que je me suis fait... voilà.
Tu t'es fait accueillir.
Je me suis fait accueillir. Et en fin de compte, on l'a goûté.
Et c'était vachement bon.
Et bah ouais. Et donc, on a dit, bon, on va laisser la cébette dedans.
Happy accident.
Voilà. Okay. On va laisser la cébette dedans. Mais c'est arrivé sur simplement une connerie de ma part. Voilà. Et elle était en train de se prendre la tête à trouver les bonnes balances sur la viande et le bacon, quoi. Bon, voilà, on a ajusté un peu, mais tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont arrivés sur des petites saucisses qu'on a faites.
Au Colorado, tu es plus sur une clientèle américaine qui aime bien les choses assez relevées. Donc, donc en effet, oui, chaque culture a ses préférences.
Bien sûr.
Et puis bon, bah, au fur et à mesure aussi, bon, tu essayes d'élargir ta clientèle, donc tu dois aussi aller chercher les Américains, parce que comme je disais au début, en fait, la charcuterie française n'est pas du tout connue aux États-Unis. Donc quand tu voulais des anecdotes, par exemple la merguez, ils pensaient que c'était un hot dog et donc il fallait la bouillir. Non, tu bouges pas une merguez.
Oui.
Donc c'est vrai qu'ils ont plus l'habitude des saucisses qui sont pré-cuites comme des hot dogs ou déjà des bratwurst aussi qui sont déjà pré-cuites. Un pâté, ils connaissent pas du tout ce que c'est, donc ils pensent que c'est comme un guacamole où ils vont aller tremper leurs chips. Et non, pas du tout, c'est quelque chose que tu vas étaler sur de la baguette. Donc en fait, la charcuterie française, comme ils connaissent pas, il faut les éduquer là-dessus. Et donc ça, c'est vachement intéressant aussi. Bon, nous, on essaye toujours d'aller sur les farmers market parce que on aime
c'est
bien
là
et on aime
contact.
Bien expliquer voilà
ouais,
le contact de la clientèle et t'expliques tes produits et tu vois un peu la réception que tu as derrière. Donc en effet, par exemple, la saucisse de poulet ici, ça marche bien parce que c'est assez relevé. Par exemple, les Français, pour eux, ça va être un peu trop relevé, tu vois.
D'accord.
Mais en revenant sur l'histoire de la merguez, c'est une histoire vraie.
Non, mais je vous crois.
Céline a eu un appel téléphonique d'une cliente qui dit « Écoutez, j'ai mis la saucisse dans l'eau, là. C'est vraiment pas bon. » Et on pensait que c'était une blague, quoi, tu vois, au début. Donc, elle a fini par reprendre un nouveau paquet et elle est allée voir la cliente, elle lui a fait voir et puis c'est parti. Mais au tout début, les gens ont acheté et ils ont bouilli les saucisses, quoi.
Je ne
conseille pas de bouillir une merguez, hein, parce que je pense que ça ne doit pas être bon du tout.
Ouais.
Mais on n'y avait pas pensé.
Ouais.
Tu vois, ce n'est pas un réflexe.
Bah oui, bien sûr.
Donc, l'aventure aussi est dans le humain et tous les réflexes qu'on avait, en fin de compte, quand tu étais en Europe, tu les oublies. Parce que ici, les gens, c'est pas du tout comme ça.
C'est un exercice pas facile, hein,
Ouais, 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 ouais. Donc tu fais un switch, tu fais vraiment un reset et tu redémarres et à chaque fois, t'expliques aux gens. Donc on explique aux vendeurs ce que c'est, parce que même eux, ils savent pas. Donc on leur donne les saucisses pour qu'ils les goûtent, qu'ils goûtent ce qu'ils mangent.
Ouais.
Tu vois. Donc mais c'est très rigolo, même ici encore sur une année de la pleine année de marché qu'on a pu avoir cette année. On a encore eu plein de questions de gens qui étaient à l'ouest de tout. Tu vois, on leur fait découvrir des choses.
Mais encore, c'est bien qu'ils posent la question.
Le croque-monsieur, mon Dieu, le croque-monsieur sur les marchés. Les gens savent, mais 80%,
oh, it's a green cheese. 90%. Exactement. Ah, alors on dit, oui, French style.
Ouais,
moi, c'est comme ça que je l'explique à mon mari les premières fois. C'est French grilled cheese avec du jambon et de la tomate.
D'accord, tu vois, on rajoute encore la sauce blanche. Donc, on fait... la béchamel qui va avec, tu vois. Mais il faut leur expliquer.
Ouais. Bah ouais.
Tu vois, on a plein de choses qu'on leur a expliquées comme ça. Mais tu vois que les gens... Alors, on va faire un aparté clair. C'est Californie, 95%, et ça, c'est les chiffres qu'on a, 95% de nos clients sont français, francophones ou européens.
D'accord.
5% n'est que américain. Ouais. Très petite communauté américaine. Mais en tout cas, les gens, quand ils viennent, ils savent ce qu'ils veulent manger.
Ouais. Donc, tu n'as pas besoin de passer 15 ans et
si ça
ne
se passe pas bien, on a un retour très vite.
D'accord.
Colorado, c'est tout l'inverse. On a 89% des clients, ce ne sont que des Américains.
D'accord.
Et ce qu'on a découvert, c'est que beaucoup de gens au Colorado ont voyagé.
OK.
Par l'armée, par les études et autres.
Et donc, il y a beaucoup de transplants dans le Colorado.
Ouais.
Plein de gens qui viennent
d'autres
partout.
États.
Nous-mêmes, on en est la preuve.
Voilà. Non, voilà. Clair. Donc, c'est des gens qui sont curieux et qui ont voyagé et qui ont retrouvé. Et donc, tu en as plein qui viennent nous voir parce qu'ils ont entendu parler que on a des dios, on a de la merguez, on a des choses comme ça.
Et ils savent ce que c'est, quoi.
Ils savent et puis ils reviennent parce qu'ils ont fait le constat qu'en fin de compte, c'est le même goût qu'ils avaient quand ils étaient en Europe.
juste si on revient sur la chronologie de ton histoire, comment, à quel moment, du coup, est-ce que toi, tu quittes ton boulot pour te dédier avec Céline ? Ah ouais, c'est hyper récent.
Quand on a déménagé ici. Quand on a déménagé ici.
Donc quand on a déménagé au Colorado.
Et vous avez déménagé ici quand,
il y a 2 ans et demi.
Donc 2019. Ouais. Donc la boîte, ça fait 3 ans à ce moment-là qu'elle tourne.
Ouais.
On a monté en 2016.
On est en 2024, c'est ça ?
Et non, ça faisait 6 ans à peu près. 6 ans qu'est tournée, parce que ça fait donc 2020.
Non, c'est 2021 qu'on est venu ici.
Ouais, 21.
Ah, donc en fait, vous savez pas en quelle année vous êtes arrivé.
On est en train de revoir. Parce que on fait tellement d'allers-retours. Entre la... En gros, toutes les 3 semaines, pour donner le rythme, toutes les 3 semaines, l'un de nous part au moins une semaine en Californie.
Waouh.
D'accord, pour tenir là-bas. Parce
c'est épuisant quand même, ça aussi. Quand
même, là-bas, on a 1800 square feet en unité de prod.
Donc 180 mètres carrés, un truc comme ça.
Ouais. Donc il faut quand même que ça tourne, que les gens sentent aussi que tu es avec eux, parce que loin des yeux, loin du cœur. Hein, donc voilà. Donc on a fait des bêtises, comme tout le monde en a appris. Il y a des fois où ça nous gonflait d'y aller, donc on n'y est pas allé, et puis ça n'a pas loupé. Les gens,
il y a eu des problèmes.
On a eu des retours où les gens, non, il y a un problème, c'est trop salé, ça n'a pas de goût. T'y retournes. T'as compris que voilà, les gens s'épuisent tout seuls parce que t'es pas avec eux, tu les entraînes pas, tu les motives pas. C'est bien d'avoir ces patrons qui sont avec toi et qui mettent la main dedans, et si c'est pas, bah, tu prends des mauvaises habitudes. Donc on a appris avec ça. Donc ouais, voilà, donc le rythme qu'on a, c'est quand même que toutes les 3 semaines, il y a un de nous qui part une semaine. Ouais.
Comment est-ce que vous décidez de venir vous installer au Colorado ?
Oula.
Eh ben en fait,
oh là là.
C'est la faute. Eh ben en fait, c'est la faute à Omar.
Ah Omar, on le sait.
C'est la faute à Omar et Mélanie.
Oh, non, si, pas du tout.
Coucou Omar.
Pas du tout. Oui, on leur fait un petit coucou. Mais en fait, il y a une crise sanitaire à un moment qui est arrivée en 2019.
No way.
Voilà. 2020. Ouais, 2020. Donc du coup, tu retrouves confiné. Voilà, donc tu as un peu fait le tour de la Californie. À l'époque, ça fait déjà 6-7 ans qu'on est là-bas. Et puis, tu veux aussi développer Goodies French Cuisine. Et puis, en étant dans la baie de San Francisco, ce n'est pas aussi forcément l'endroit qui est le moins cher aux États-Unis. Donc, quand tu es Apple locaux, et que tu vends des téléphones, ça se passe bien. Mais quand tu es dans l'alimentaire et que tu n'as pas forcément envie de faire payer un paquet de saucisses à 20 $, c'est compliqué de développer ton business. Ouais. Et puis aussi, entre-temps, tu as eu l'interdiction du foie gras qui est arrivé en Californie. Donc, la crise sanitaire, de vouloir développer ton business, l'interdiction du foie gras, on s'est dit, tiens, on a peut-être envie d'aller voir ailleurs. Et puis, en effet, comme on connaissait du monde en Colorado, qu'on avait déjà fait plusieurs allers-retours et que ça nous plaisait bien, on s'est dit, tiens...
pas de zéro, quoi.
Non, on
travaillait Marc, déjà... Coucou Mélanie. Donc,
ouais, on travaillait déjà avec le frigo. Ça faisait 2 ans qu'on travaillait avec eux. Donc, ils revendaient déjà une partie de nos saucisses.
D'accord.
Et on venait faire l'hiver.
Que vous fabriquiez, du coup, en Californie ?
Non, en Californie, et qu'on expédiait. Par contre, le foie gras, on le fabriquait ici, au Colorado.
Puisque c'était interdit en Californie.
Voilà. Donc, merci Julien. Parce que c'est la cuisine de Julien qu'on prenait quand il ne travaillait pas.
De la Belle Bakery, qui est aussi passée à mon micro.
Donc quand je venais pendant une semaine avec toi, on travaillait les shifts où Julien n'était pas présent. Il nous prêtait sa cuisine et on faisait les foie gras et les puff pastries.
Les pâtes feuilletées.
Non. Ah mince.
Les bouchées à la reine, non ?
Merci.
C'est ça ?
Ah oui, les bouchées. Et on faisait les bouchées à la reine. Parce que Julien avait le matériel de bakery, de boulanger-pâtissier, donc on pouvait ça. Donc,
Vous vous demandez peut-être de quoi on parle là ? C'est pas la première fois que j'entends dire que les Français du Colorado, c'est une vraie famille. Et j'ai l'impression que c'est encore plus le cas dans le domaine de l'agroalimentaire. Le Frigo, dont parle Christophe, c'est en fait une épicerie fine et un magasin français qui est basé dans le nord de Denver et qui est tenu par Omar et Mélanie, deux Français donc. Ces Français distribuaient déjà certains des produits de Goodies et Julien, dont Christophe parle, c'est Julien Renaud, qui est passé à mon micro il y a quelques mois. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire. L'épisode était sorti au mois de juin 2023. Et Julien est donc boulanger-pâtissier dans la région de Denver. Il a plusieurs boulangeries. Et il a donc prêté ses cuisines à Céline et Christophe pour se lancer dans le Colorado. Une véritable famille, je vous dis.
Euh, Donc du coup, le frère de Christophe étant marié à une Américaine qui vivait, dont les parents vivaient dans le Kansas, une fois, on a décidé de faire le road trip San Francisco-Kansas.
Donc en passant,
bien sûr, par le Colorado, avec toutes les...
On a fait le choix de couper à travers les Rockies.
Voilà, en découvrant les Rocky Mountains, en découvrant Denver... Donc du coup, là, on a plus découvert le Colorado à ce moment-là.
Et alors, ça a été coup de foudre.
En plein été, donc c'était sympa, pas de neige.
Et Céline et les filles étaient fans des Broncos.
Donc les couvertes du Colorado, c'est fait à ce moment-là, lors de ce road trip-là. Ouais.
Et vous aviez aimé tout de suite.
Ce qui
fait qu'on a changé notre road trip de retour. On est repassé par Denver et redescendre au lieu de descendre comme on avait choisi de faire. On est repassé par Denver.
Je connais personne que le Colorado laisse indifférent quand même. Hein.
Enfin, ouais, c'est quand même un bel état.
C'est quand même assez incroyable.
Moi, j'ai eu tous les temps ici. Donc, quand je suis venu travailler, il y a des fois où je ne suis pas reparti parce qu'il y avait tellement de neige qui est tombée que je suis resté chez Omar et Mélanie. Parce que voilà, je ne pouvais pas repartir.
Ouais,
quoi. Et donc, on se posait beaucoup de questions pour revenir sur le déménagement. On s'est posé beaucoup de questions dans le sens où, moi, avec mon travail, j'avais quand même pas mal de points d'attache. Sur Boston, je connaissais beaucoup de monde.
Okay.
Je connaissais du monde sur Seattle. Le sud de la Californie ne nous intéressait pas du tout parce qu'au terme de coût, c'était n'importe quoi. Enfin,
C'était pas forcément mieux.
Non, c'était pas mieux.
Oh, les grandes villes non
plus. Que ce soit San Diego, Los Angeles et tout, c'était n'importe quoi. Donc, c'est pour se retrouver à McFarlane, tu vois, au milieu de nulle part, à côté de la prison de fous. Voilà, ça n'a aucun intérêt. Donc, Washington, Colorado, Boston, New York, trop cher, check. Miami, trop humide, et puis surtout en termes de fournisseurs pour trouver des fermiers et machin, c'est extrêmement compliqué.
Ah ouais, l'agriculture n'était pas.
Non, c'est que beaucoup d'imports, à moins que tu veuilles manger du crocodile, enfin du local.
Des chipots d'alligators.
Ouais, voilà. Ils ont déjà pas mal de saucisses comme ça, donc ils n'ont pas besoin de moi.
Donc vous n'avez pas.
Non, maintenant on a posé le pour et le contre, et surtout ce qu'on a vu, c'est que charcutier ici. Européen, pur, zéro.
Ouais, vous étiez les seuls.
Voilà. Il y a un Italien qui fonctionne très très bien et qui a ses salaisons à basalte. Sinon, il n'y a personne. Tout le reste, c'est de l'industriel.
Et puis, j'imagine qu'être accueilli par une communauté, du coup, Julien qui vous prête ses cuisines, Omar et Mélanie, j'imagine que c'est aussi vachement, je ne sais pas si c'est rassurant, mais en tout cas, c'est engageant de se dire, OK,
il
y a des gens vachement
tout à fait,
cool.
C'est toujours sympa d'arriver dans un coin où tu connais personne. Enfin, là, on connaissait du monde, c'est toujours plus
Monsieur
plus,
le maire
sympa,
nous a fait une soirée spécifique pour nous présenter à tout le monde. Donc, on a fait un michoui dans son jardin.
Le maire de Denver.
Ah, Omar, c'est le maire des Français. Donc, le maire des Français a décidé de faire une petite soirée pour nous présenter et puis surtout que Céline voit un peu la communauté, se sentir et choses comme ça.
Mm-hmm.
Donc on a rencontré pas mal de monde à cette soirée-là parce que je pense qu'il y avait pas loin d'une centaine de personnes. Enfin bon, Omar est un aimant. Et puis ses parties sont reconnues dans toute la métro Denver métropolitaine area, comme on dit, les soirées de Omar et Mélanie. Ils nous ont super bien aidés pour nous rendre, enfin que ça soit confiant. Sur ça, ils nous ont aussi recommandé une agent immobilière qui a trouvé la maison, tu vois. Enfin, on s'est senti accueillis.
Mm-hmm. C'est génial.
C'était super, super cool. Quoi.
Donc ça, c'était 2021.
Été 2021. Parti. Enfin, on a recréé aussi une entité ici.
Ouais.
Donc repartir de zéro, les démarches.
C'est quoi C'est une filiale ou c'est une boîte indépendante de
Céline
Californie? Filiale.
Ouais, c'est filiale. Une filiale.
Donc le siège est en Californie. Excuse-moi, je
siège toujours
le siège en Californie.
Ok. D'accord.
Donc voilà, reprendre les démarches avec le HELS pour avoir un nouveau permis ici, une nouvelle licence. Mm-hmm.
Une nouvelle cuisine.
Et puis on redémarre.
Donc on a utilisé, Julien avait un proprio, on lui a demandé s'il avait d'autres cuisines et on travaille avec le... On est dans la cuisine, c'est le même propriétaire que Julien. Quoi.
D'accord, ok.
Voilà. Donc Julien nous a passé auprès de... Non, je ne sais plus comment il s'appelle, mais enfin, peu importe. Enfin, tout le monde nous a aidés, en fin de compte, pour qu'on puisse s'installer. Tu vois, ça a été quand même plutôt rapide.
La communauté française a été vachement solidaire et contente de vous accueillir.
Ouais.
Et de...
Ouais, sur ça, on n'a pas de, on n'a pas de mauvaises remarques à faire là-dessus. C'est les gens, quand ils viennent au Colorado, en tout cas, beaucoup plus simple, parce qu'on est déjà une plus petite communauté. Beaucoup plus simple de te faire introduire très, très vite auprès des bonnes personnes, parce que les gens travaillent partout. Dans plein de systèmes, enfin, plein de boîtes, plein de secteurs, plein de choses. Il n'y a pas que de la tech.
Ouais.
La baie de San Francisco, le seul défaut, c'est que 90% des gens, c'est la tech. Tu as très peu de gens dans la food. Ouais, c'est vrai. T'as très peu de gens en dehors de ça. T'as quelques personnes dans l'éducation, mais ça se compte sur les doigts d'une main. Les gens dans la food, ça se compte sur les doigts d'une main. Par contre, les de la tech, t'as un annuaire, quoi. C'est que ça. Dans les finances, dans le fonds d'investissement, il n'y a que ça. Donc, c'est plus compliqué d'être aidé par la communauté parce que t'as très peu de gens. C'est en train de s'organiser. Le Covid a fait changer plein de choses, mais quand t'arrives dans les années 2010, t'as rien, quoi. T'as pas grand-chose. T'as vraiment pas grand-chose. Il y a plein de choses comme ça qui sont nées. C'est normal, avec le temps, quoi qu'il arrive, tu construis les choses. Ici, tout de suite, c'était en place. C'était déjà en place.
Ouais.
Parce que plus petite communauté et les gens viennent ici. On a des gens dans la pub, tu vois. On a des gens dans la food.
Il y a tous les domaines.
On a tous les métiers. On a tous les métiers.
Et alors, comment, de cette arrivée du coup dans le Colorado, est-ce que vous avez pris la décision que ça y est, c'était le moment où tu pouvais lâcher ton boulot?
On va dire que ça s'est fait autrement. Le Covid a fait un impact et moi dans mon business propre qui était événementiel et autres, on a pris une énorme baffe.
Bien sûr.
Donc la boîte franco-israélienne pour laquelle on travaillait, l'agence, a décidé de passer à autre chose. Donc l'équipe actuelle.
Donc, ils ont quoi pivoté le
changement d'activité ils ont pivoté en prenant des gens, des Américains en interne dans les boîtes. Et donc tous les gens qui travaillaient pour la boîte, on nous a tous dit voilà, c'est fini.
Ok.
Bon, ils ont été propres, ils nous ont laissé quelques mois, des choses comme ça. Mais c'était comme ça, c'était la vie. Voilà, c'est tout, c'était temps de passer à autre chose. Et pour nous aussi, je pense qu'on était fatigués aussi. Le Covid nous avait tués, de passer dans le virtuel, de gérer le virtuel. Enfin, ouais. Céline peut en être témoin.
C'est pas le même métier. Hein.
Quand tu as une maison et que ta chambre, c'est ton bureau, et que tu organises un événement virtuel pour le département de la défense américaine sur les fraudes et le phishing et compagnie, Céline, elle n'a pas dormi dans la chambre parce que moi, j'y ai passé 36 heures sans dormir. Quoi.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? Avec les trois écrans devant, j'avais tout installé, je m'étais installé un énorme bureau, mon téléphone tout le temps, elle ne pouvait pas se reposer. Quoi.
Toi non plus.
Donc il était temps que ça s'arrête.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
C'est que j'avais pas les clés, j'apprenais, mais j'avais pas les clés sur ça et ça m'épuisait, ça me saoulait et plein de choses. Donc j'ai eu l'occasion de. Voilà.
Et du coup, est-ce que c'était le bon moment aussi pour que vous vous mettiez à deux à fond?
Ouais.
Encore plus à fond, vous étiez déjà un peu à fond quand même.
Oui, parce que ça nous a permis de développer, la relation avec le frigo. Sur Denver.
Qui est donc la boîte de Omar.
De Mélanie et Omar.
D'accord.
La partie commerciale ici, un peu plus business to business, professionnel. Professionnel. Tu vois, client final.
En retail. Ouais.
Le retail est venu
pas
avec
les... Pas moins de vente directe.
Ouais, alors le...
En ligne.
Pas en direct, en ligne. Hein, parce que le fait de passer en marché... Sur les marchés, les dimanches et les samedis, les vendredis et les mardis, enfin voilà, on a plusieurs marchés. C'est hyper important pour le Colorado parce qu'il y en a partout et les gens ont l'habitude d'aller acheter ça. Enfin,
les produits, elles
doivent retrouver leurs vendeurs et choses comme ça. Le en ligne ici ne fonctionne pas. C'est pas, voilà, peut-être parce qu'on le fait mal aussi. Mais ça fonctionne.
Donc, je suis la seule cliente quelques... du en ligne.
Non,
de
mais vous êtes une centaine. Vous êtes une centaine quand on a plus de 3000 en Californie, tu vois ce que je veux dire?
Ouais, en même temps, comme tu dis, c'est pas la même population.
On n'a pas la même population. Donc, comme ici, on est beaucoup plus américains, et ben, les Américains, c'est en magasin et c'est en farmer market.
D'accord.
Donc, le déploiement ici s'est fait là-dessus. Voilà.
Donc finalement, le fait que ton emploi s'arrête, ça vous a permis en fait aussi de gérer,
permis de développer plein de produits quoi.
Ça, tout ça.
Ben déjà qu'il soit plus présent en fabrication, donc déjà on peut produire plus, on peut développer des nouveaux produits. Donc Christophe, c'est un très bon commercial qui est à l'aise avec le relationnel, donc il aime bien aller démarcher les gens, donc aussi trouver de nouveaux clients en B2B. Donc oui, ça, bien sûr, ça aide au quotidien.
Ouais.
Et puis bon, aussi, on est sur une activité physique, donc...
Avoir des relais, c'est bien
donc,
aussi.
Donc, c'est-à-dire que c'est aussi agréable d'avoir un homme en cuisine qui peut te porter des bassines de 50 livres, 60 livres de viande aussi, parce que moi, j'ai aussi ma limite. Les employés ont aussi leurs limites.
Bien sûr.
Donc, c'est-à-dire que plus tu produis et plus tu augmentes ta capacité. Et donc, c'est vrai que voilà, donc c'est bien aussi qu'un homme vienne en cuisine avec nous. Ouais.
Thank you.
Alors aujourd'hui, du coup, vous êtes associés tous les deux
Non, c'est la chef.
Ok. Céline, tu es la big boss, ouais. Mais vous travaillez ensemble
bien sûr,
sur ce projet.
Ouais, tout à fait.
C'est quoi est-ce que vous pourriez me dire chacun l'un et l'autre en quoi est-ce que vous êtes complémentaires? Alors ok, il y a tu nous as parlé un petit peu de Christophe en cuisine, mais au quotidien, même sur la gestion du business, sur tout ça, est-ce que vous pouvez me parler un peu, je sais pas, de votre complémentarité?
Bon, je pense qu'on a chacun trouvé ses marques. Ben, par exemple, pour la cuisine, chacun a trouvé ses marques. Chacun a ses produits où on est plus à l'aise.
C'est quoi ta spécialité, alors, toi, Céline?
Ben, en fait, moi, mes spécialités, je dirais la merguez. J'aime beaucoup faire la merguez avec tout le mélange d'épices. J'adore. Pourtant, ce n'est pas forcément ma saucisse préférée parce que je n'aime pas trop l'agneau.
Ah, d'accord.
Mais j'aime beaucoup la faire. Moi, j'aime bien faire les saucisses. Christophe aime bien développer les nouveaux produits. Lui, par exemple, il ne sait pas faire le boudin noir parce que moi, le brasser le sang, ce n'est pas trop mon truc. Bon, Christophe, son grand plaisir aussi, c'est de faire les pâtés en croûte. Et ça, c'est moi, ma spécialité. Moi j'aime bien par exemple faire les pâtés de pommes de terre du Limousin, les pâtés bourguignons aussi. Enfin non, je pense
vous êtes hyper complémentaires.
Ouais,
en fait,
on n'a pas forcément une spécialité parce qu'on peut faire, tu peux faire certaines saucisses, moi j'en fais d'autres. Toi tu fais certains pâtés, moi j'en fais d'autres. Certains produits, certains plats cuisinés, moi ça me dérange pas de le faire. Toi ta spécialité bien sûr c'est le cassoulet, mais donc chacun un peu a trouvé sa place en cuisine, ouais. Donc ça c'est bien. On ne se marche pas sur les pieds, c'est bien.
Non, on ne se marche pas sur les pieds. Céline est efficace dans la production et la gestion des employés pour qu'ils produisent.
Mais il lui reste des restes de tous ces process et de sa méthodologie.
Ce truc
aussi.
De process et tout, voilà. Je ne suis pas dire plus dans la créativité, mais je suis plus dans la recherche. Tu vois, de nouveaux produits. Après, je vais beaucoup plus vite sur certains produits. Donc, voilà, ça ne sert à rien de les laisser faire. Je vais aller plus vite que tout le monde. Même s'ils sont deux, je vais plus vite qu'eux. Parce que c'est une question.
Ça va les
de...
filles, non, je regarde.
Non, on parle de faire des saucisses. Mais tu vois, tourner, c'est un coup. Ouais. C'est un coup à avoir. C'est chiant. Céline n'aime pas ça. Moi, ça ne me dérange pas. Mais je vais de plus aller chercher tu vois, les nouveaux produits. Donc, on est allé faire des bratwurst et des weisswurst. Aujourd'hui.
Saucisses allemandes ?
Ouais, voilà. On sait qu'aujourd'hui, on a pas mal de retours d'Allemands, d'Autrichiens, enfin, voilà, qui trouvent qu'on a. Surtout sur la weisswurst, qui est celle au veau, que tu trouves très peu. On a le goût. Donc moi, je suis toujours dans cette recherche de goût.
D'accord.
Parfois excessive, mais elle va arriver derrière pour me taper dessus en disant on se calme.
C'est la voix de la raison, Céline.
Oui, non, mais exactement, parce que si c'était moi, on ferait tout. Tu peux
donc
pas
vous
imaginer,
êtes vraiment très complémentaires là-dessus, c'est génial.
Ouais, mais c'est pour ça aussi. Enfin, je pense que...
C'est-à-dire, après, la créativité, il faut la ramener à une routine quotidienne d'hebdomadaire. En plus, la scaler à une certaine production, même si nous, on est quand même sur de l'artisanal et c'est quand même des petits batchs.
Ouais.
Mais bon, il faut que ça rentre dans un process artisanal. Oui, c'est moi qui interviens un petit peu en disant non, stop, là, on peut pas.
C'est quoi le futur de Goodies French Cuisine?
Bon, on a besoin d'un endroit à nous pour produire et pouvoir stocker en quantité.
Parce que là, les locaux que vous avez, c'est pas
cuisine partagée encore.
Ah, c'est cuisine partagée.
Ouais, cuisine partagée. On a des shifts de nuit. Alors, on préfère les shifts de nuit parce qu'on a moins de monde qui nous embête sur ça. On travaille avec de la viande crue, donc on a beaucoup. On fait attention énormément au process, aux températures à garder. Et en pleine journée, tu vois comment on peut être l'été. C'est mort.
C'est pas des cuisines climatisées ou...
Non.
Bien sûr que si.
Enfin, climatisées.
Bien sûr que si, c'est climatisé.
Ouais, climatisé.
Pas de manière aussi efficace que tu voudrais.
Non, mais Christophe, il faudrait un frigo à 34 degrés.
Non, 50 degrés. Il me faut 5 degrés.
Non, bien
faut...
sûr que si, c'est climatisé. Surtout
il faut 5 degrés.
Surtout que tu as là l'été,
quand
tu pourrais
travailler. Voilà. C'est pas climatisé comme je le souhaiterais. Il faudrait qu'il fasse 5 degrés.
C'est pas frigorifié.
Ouais.
Mais c'est climatisé.
Il faut travailler dans un frigo. Quand tu fais de la charcuterie, il faudrait travailler dans un frigo. Donc on est tout le temps en train de rentrer et sortir des frigos walk-in. On rentre, on sort, on rentre, on sort. Et moi, je perds énormément de temps. Je trouve qu'on perd énormément de temps. C'est épuisant aussi parce qu'il faut porter à chaque fois. Qu'on n'est pas obligatoirement à avoir les étagères les plus basses. Donc parfois, il nous faut des étagères tout en haut. Donc c'est toujours pour Bibi ou moi ou un autre pour le faire. Mais Céline, je ne veux pas qu'elle le fasse. Parce que je ne veux pas qu'elle se casse le dos ou n'importe quoi. Ou même on a certaines filles, elles ne peuvent même pas atteindre les. Voilà. Donc, on a besoin d'un endroit où.
À vous, avec votre.
Avec mes process, moi, de température et autres. Tu vois. Et aujourd'hui, on n'a pas cette capacité-là. Donc ça ne nous permet pas de faire plein de produits qu'on souhaiterait faire. Donc après, je te laisse parler.
Donc en fait, le prochain projet pour Goodies French Cuisine va avoir lieu, va se faire à Denver, au Colorado, à l'automne 2024. Okay. On va ouvrir un magasin.
Génial.
Voilà. Donc le premier, et avec du notre coup cuisine aussi qui sera attachée au magasin.
D'accord. Vous avez trouvé les locaux et tout déjà ?
Oui. Le lease a été signé il y a quelques semaines. Ouais.
Félicitations. Ah ouais. Dans quel coin de Denver ?
Wash Park, Washington Park.
Hein. Super.
Donc ouais, j'aime beaucoup ce quartier-là. Ouais. C'est très sympa.
On a la chance d'avoir trouvé un... Ouais.
Donc c'est un bel espace. De...
Et du coup, les produits, vous allez pouvoir en proposer des différents ? Vous allez rester sur la charcuterie ou comment ?
Alors bah là, on va ouvrir un deli et un market. Voilà, donc deli, donc on proposera Goodies Deli and Market. Bien sûr, on proposera les produits de Goodies French Cuisine, donc on pourra y retrouver les saucisses, phares, les pâtés, mais pas que, puisque comme c'est un deli, donc on
les
va proposer...
Boudins.
Voilà, exactement. Deli, on va proposer une gamme de sandwichs. Des sandwichs un peu plus européens.
Ouais, ça.
Ouais, tu pourras avoir des vrais sandwichs merguez, chipot, saucisses de Toulouse dans du pain.
Et puis à côté, ben, on développe des choses qu'on ne fait pas avec Goodies French Cuisine. Donc, il y aura une fromagerie, boulangerie, pâtisserie et puis l'épicerie fine.
Génial.
Ouais. Avec plein de produits français, européens. Un peu plein de choses.
Et on travaillera aussi avec des petits producteurs locaux au Colorado. Parce que je pense que c'est sympa aussi de pouvoir les mettre en avant.
C'est clair. Donc, c'est quoi du coup ? C'est en construction là actuellement ?
Alors, en fait, l'architecte est en train de finaliser les plans pour pouvoir déposer le permis. Mm-hmm. Et puis après, une fois que ça sera accepté, lancer les travaux.
Et donc, une ouverture pour quoi ? Thanksgiving ou un truc comme ça ?
Automne 2024.
On espère avant Thanksgiving.
Avant Thanksgiving, oui.
Okay. On espère avant Thanksgiving.
Eh ben, on sera là. Hein. Ouais. Bravo.
On fera un opening. Mais bon, voilà. Dedans, on pourra faire des choses, on pourra faire des événements. Il pourrait y avoir des cours de cuisine. Tu vois, il y a plein de choses qu'on va pouvoir faire parce que c'est notre lieu, mais ça restera un grosserie, un deli, donc une épicerie fine où on proposera plein de choses dedans.
Et du coup, vous allez récupérer vos nuits ? Est-ce que vous allez pouvoir travailler en shift de journée ?
Ouais.
Oh, pas toujours, parce que quand arrive la période de fête,
faudra quand même
c'est intensif,
envoyer du lot.
Ouais, mais bon, oui, je pense qu'on va pouvoir se caler sur.
Surtout, ce qui va se passer, c'est Céline va se focaliser sur le magasin. Moi, je me focalise sur la charcuterie et je reste que sur ça. Et comme tu en as parlé avant, on a développé certains produits avec certains business, dont Julien de la Belle, donc un croissant Toulouse bacon cheddar. Non, Toulouse bacon et emmental, je crois. Et l'autre, c'est la merguez avec du cheddar. Mmh. Donc, il a mis ça dans une pâte à croissant et tout. Donc, on fabrique des saucisses que pour lui.
D'accord.
Ces saucisses-là ne sont faites que pour lui parce que ce sont des saucisses qui sont sans boyaux et qui sont faites à une certaine taille, un certain poids, que ce soit pas... Voilà.
Ah,
donc, on a développé ça avec lui. On travaille aussi avec le French, où on leur fournit nos merguez.
C'est quoi, c'est un restaurant
Ils ont deux restaurants dans Denver.
Et donc, voilà, l'objectif aussi que tu auras, c'est de développer
On travaille avec
B2B,
la bouche aussi. On se sépare les tâches aussi. Moi, je vais être plus sur la charcuterie.
Enfin, et monter ton équipe.
Prod,
et monter aussi ton équipe en cuisine.
Que je puisse partir et aller démarcher les gens. Pour leur présenter nos produits, ce genre de choses. On va reprendre sur notre saucisse italienne pimentée. Omar l'a présentée sur le magasin qu'ils ont ouvert sur Fort Collins, qui est le nord de Denver, qui est près de la frontière du Wyoming. Très au nord, plus dur. Ouais, au nord du Colorado, c'est vrai. C'est nord du Colorado, c'est à côté de la...
Ah oui, pas au nord de Denver.
Cheyenne,
oui,
c'est Cheyenne, ouais.
C'est une bonne heure de Denver.
Oui, c'est une bonne heure, quand ça roule.
Du nord de Denver, d'ailleurs.
Ouais. La route ressemble beaucoup à la baie. En tout cas, voilà. Il a vu des gens sur place qui sont intéressés par certains de nos produits. On a des gens du Wyoming qui descendent faire du shopping
encore,
et tout.
Mais c'est la communauté française, c'est génial.
C'est fait avec des Français, mais nos clients sont américains.
Ouais, d'accord.
Tu vois, ici, sur le Colorado, et ce qu'on voit, c'est que vraiment... Alors déjà, on a une énorme demande sur le magasin. Mm-hmm. Donc, sur tous les Farmers Market, tout le monde nous demandait où vous pouvez acheter.
Où est-ce qu'on peut venir toute l'année, quoi.
Donc, on a encore 2-3 magasins avec lesquels on est en train d'affiner notre portefeuille de clients avec eux. De la façon dont on peut travailler, qu'il y en a un sur Denver qui est plus à côté du stade de foot américain, un autre petit deli qui est à côté de Louisville. Mm-hmm. Voilà, donc on travaille avec ces gens-là pour leur fournir une petite quantité de produits, mais se déployer pour que les gens puissent récupérer nos produits un peu partout.
D'accord.
Voilà, là aussi, c'était l'objectif de venir au Colorado, c'est justement de pouvoir monter un projet comme ça que tu ne peux pas forcément monter dans la baie de San Francisco.
Non. À cause des coûts,
coûts financiers, ouais. Tout à fait. Donc là, c'était aussi pour ça qu'on avait aussi décidé de déménager au Colorado, c'est pouvoir de monter un projet comme ça.
Disais, ouais.
Et surtout d'avoir une cuisine centrale,
ouais.
Dans laquelle on va pouvoir produire pour plein d'autres États.
C'est ce que j'allais vous demander, du coup, est-ce que vous allez garder votre empreinte en Californie ou est-ce que vous allez envoyer en Californie?
Ouais. Par contre, on va développer
donc les locaux
l'État
de
Washington.
D'accord.
On va développer Washington sur le courant mars.
Ouais, donc, Seattle, la Californie quoi. Dessert ouais. toujours la Californie et le Colorado va desservir le Colorado et bien sûr le reste des États-Unis.
C'est-à-dire que la Californie aujourd'hui, ouais. ce qu'on a
vous allez continuer
prod...
l'expédition
ouais.
aussi
mais du Colorado. Du Colorado. Ouais. L'unité de production principale va être basée au Colorado.
Mais là, ce que vous m'expliquez tout à l'heure, c'est que vous partez quasiment tous les 15 jours, 3 semaines pour bosser là-bas. Avec le magasin, ça va être plus compliqué. Est-ce
c'est
que votre objectif, c'est de... Oh, d'accord. Ok.
D'où le fait d'avoir une équipe, c'est ouais. de pouvoir m'absenter pendant une semaine. Céline aura toujours un œil puisque la cuisine est collée au...
Ouais, ouais.
Collée au magasin.
D'accord.
Et le fait que aussi la cuisine va fournir en temps réel des plats et des saucisses à manger. Donc ça va être très lié. Donc j'ai besoin de former mon équipe à ZAP et j'ai pas besoin de cette cuisine là pour la former, il faut que je les forme là maintenant.
Alors s'il y a des gens qui veulent candidater pour ils peuvent vous écrire?
Ah ouais. Bah tout à fait, ouais.
OK, c'est quoi le meilleur moyen de vous contacter? Sur Instagram, Facebook, sur votre site?
Oui, bah via par message via Instagram ou Facebook ou alors sur par email aussi, le mieux c'est contact@goodycharcuterie.com.
Super, bah je le mettrai dans la note de l'épisode. Et du coup, là, tout ce nouveau projet-là, vous le faites sur vos fonds propres ou vous avez des investisseurs?
Non, là, on aura un associé pour le magasin et la cuisine.
Et c'est un Français ou pas du tout?
C'est un Français basé au Colorado, ouais.
D'accord, ok.
On a un Français basé au Colorado.
Eh bien, génial. Eh bien, toutes mes félicitations. Est-ce que
merci.
Vous avez un dernier petit mot? Je ne sais pas. J'aime bien une question que je pose traditionnellement. C'est ce qu'il y a un petit conseil que vous chuchoteriez à l'oreille du Christophe et de la Céline d'il y a, je ne sais pas, 10 ans, qui débarquaient aux États-Unis? Un petit truc que vous auriez aimé entendre ou qui vous aurait peut-être aidé ou qui vous a peut-être aidé d'ailleurs, qui pourrait bénéficier à nos auditeurs auditrices.
Moi, Christophe pourrait me chuchoter en disant « Allez, vas-y, tente le coup, tu vas voir, tu ne vas pas regretter. »
Ouais.
Et en effet, 10 ans après, je ne regrette pas.
Ouais. Ouais, tu as l'air épanouie.
Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Donc, on a quand même réussi, en travaillant quand même beaucoup d'heures,
ouais.
on a quand même réussi à trouver un bon équilibre familial.
Ouais.
Et comme tu dis, en restant épanoui, que ce soit dans le domaine professionnel et dans le domaine privé. Donc, c'est
bravo.
Parfait.
C'est génial.
Alors moi, c'est simple. J'aurais dû le faire plus tôt.
Ah ouais.
On a failli. On était étudiants, on a failli. On devait partir en Australie. Et puis, ça ne s'est pas fait. Bon, après, la vie est faite sans regret. Tu vois. Mais c'était juste ça. C'est que j'aurais dû partir plus tôt.
Ouais.
La France m'a donné beaucoup de choses. Mais à un certain moment, j'étais arrivé à un point de... pas de non-retour parce que c'est pas le bon mot, mais je tapais un mur. Donc j'ai continué à bosser. On était loin d'être malheureux. On vivait très très bien. Mais cette mise en danger, j'en avais besoin. En fin de compte, je tombais dans une routine où je m'emmerdais. Et donc j'aurais dû le faire plus tôt. J'aurais dû taper un coup de pied et dire allez hop, on y va. T'aurais pu pousser plus tôt. Mais
vous
ouais, si je pouvais me chuchoter un truc, c'est bouge-toi plus vite. Va voir ce qui se passe un peu ailleurs.
Ok. Et ben merci beaucoup.
Ben entendu.
Merci.
Et bravo pour là où vous en êtes aujourd'hui.
Merci à
merci Marie.
Mais ça suffit.
Merci Anne. Merci Anne Fleur. Merci Anne Fleur. Voilà, ça enregistre, tu vois. Je vais faire une pause. Merci Anne Fleur.
Oh, il fait trop froid. Oh, je suis gelée. Bon, je sais pas vous, mais moi ça m'a donné faim. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous souhaitez candidater sur les postes que Céline et Christophe ont évoqués, je vous mets toutes les infos dans la description de cet épisode. Je vous laisse découvrir un extrait qui nous attend la semaine prochaine.
Le seul truc que j'avais pas compris, tu vois, aux États-Unis, on te vire comme on t'embauche, en fait. Hein. T'es pas en France, quoi. Il y a pas des indemnités, il y a pas de mois de préavis et tout. C'est quelque chose que je parlerai après, mais ça, c'est quelque chose qui est un peu surprenant, quand même.
Il me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine. Et je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle histoire. Bye.
Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt.